juste après nous, d'ailleurs on va même les annoncer, c'est l'émission Calibre 58.
De bien mauvais genre, et maintenant, générique, maestro.
That ain't whiskey.
Vous écoutiez un extrait du Spaghetti Western Orchestra, une bande australienne de joyeux drilles qui ont tous la gueule de l'emploi. Il faut absolument voir leur spectacle, c'est à la fois du théâtre et de la musique. C'est jouissif et de bonne qualité. Mais quittons le western italien pour nous en retourner aux États-Unis. Nous sommes en 1850. Nous sommes en Oregon, dans la petite bourgade de Jacksonville. Et nous sommes en compagnie de mineurs. Les gars avec une pioche et des tamis. Le roman s'intitule « Le passage du canyon ». Son auteur, Ernest Haycox, ne vous est pas inconnu. Pourquoi donc ? Eh bien, parce que cet auteur prolifique de western a plus de 300 nouvelles à son Colt. Oui, bon, il est plutôt du côté des cow-boys, même si son traitement de l'Indien dans ce roman n'est pas inintéressant. L'une de ses nouvelles, Staged to Lordsburg, a donné lieu à La chevauchée fantastique de John Ford avec John Wayne et Claire Trevor. Haycox, c'est le petit chouchou de Bertrand Tavernier. Il l'a fait publier 3 fois dans la collection L'Ouest le Vrai qu'il dirige chez Actes Sud. Alors là, une petite note pour plus tard, relire la tétralogie The Big Sky d'A.B. Guthrie dans la même collection. Vaste fresque naturaliste qui débute par La captive aux yeux clairs et qui nous offre un autre panorama de la conquête de l'Ouest sauvage sur fond d'interrogations humanistes et écologiques. Mais revenons au passage du canyon. Le roman est réédité en poche chez Babel en ce mois de novembre. C'est un western, mais c'est surtout un roman d'amour et d'amitié trahie. Un roman dense qui explore les tréfonds humains. C'est peut-être cet aspect-là qui a plu à Jacques Tourneur, puisqu'il l'a adapté au cinéma, et que l'on sait que le réalisateur français, hollywoodien d'adoption, aime les non-dits, qui les exploite pour mieux susciter la terreur. Là, c'est un western. Le personnage principal, c'est Logan Stewart, un gars qui fait des affaires avec ses mules et qui va avoir de cesse de croiser des mules, comme Camrose, voire des brutes, à l'instar de Bragg. Son histoire, c'est celle d'une amitié avec Camrose. Camrose et son addiction au poker, d'autant plus désastreuse qu'il est responsable d'une agence avec son coffre-fort dans lequel se trouvent les pépites des mineurs. Vous voyez le problème ? Eh bien, lui non, car c'est un personnage dostoïevskien et qui semble se moquer de la vie même s'il n'a pas d'atermoiement mystique. Mais ce sera un peu plus compliqué que ça. Tout d'abord parce qu'il y a 2 personnages féminins d'exception, Lucy et Caroline, sans compter Madame Lestrade, typiquement elle dostoïevskienne, du genre Sophia dans Crime et Châtiment. Ces personnages qui viennent jouer les arêtes d'un pentagone amoureux. Oui, il y a un jeune 3e larron, celui qui raflera une partie de la mise amoureuse. Ensuite, parce que le roman, comme tout bon western qui se respecte un peu, est une satire du capitalisme galopant à dos de Mustang. Pour l'heure, en à peine 350 pages, vous avez des bagarres, des trahisons, de la bonté, de la sauvagerie, des remords et des envies. Le western à la sauce Haycox, c'est ça, avec des personnages dantesquement complexes. Le passager du canyon d'Ernest Haycox, chez Babel, on en redemande. Mais qu'entends-je ? Vous êtes bien sur Radio G, sur le 101.5 FM, et c'est l'heure de notre débat duel dans la Sierra, en compagnie du Western Spaghetti Orchestra et des éditions Sidonis. Les amis, vous êtes prêts ?
Ah bah toujours.
Toujours.
Les mains sur les coltes.
Tintin ! Alors, cette semaine, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on cause western. Et nous avons 2 films des éditions Sidonis, Les Chevaliers du Texas de Ray Enright avec Joel McCrea, 3 hommes qui prennent des trajectoires différentes sur fond de guerre de sécession et de création des Texas Rangers avec un triangle amoureux. Et nous avons également La Chevauchée de l'Honneur de Leslie Fenton avec William Bendix et William Holden, une histoire de rédemption avec 3 bandits qui prennent des trajectoires différentes sur fond de création des Texas Rangers avec, là aussi, un triangle amoureux. Alors, par quoi commençons-nous et par qui commençons-nous ? Qui dégaine le premier ?
Bien, bah, écoute, je veux bien dégainer. Tu as commencé par les Chevaliers du Texas. On est dans le western. On est dans le western, d'ailleurs, très archétypal, mais je dirais presque dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on a des chevaux, des colts, des méchants, des gentils, une femme amoureuse, deux femmes amoureuses même. Mais en fait, tout ça me semble extrêmement plaqué, presque, je dirais, artificiel. J'ai l'impression qu'il y avait un metteur en scène, mais je me demande si le metteur en scène était vraiment présent. C'est ma première réflexion.
T'en as une deuxième ?
Bah, je veux bien en avoir une deuxième.
non, je ne sais pas.
moi, je veux bien en avoir une deuxième. La deuxième, c'est ce qui m'a fait rire, parce que cette émission me fait vraiment beaucoup réfléchir. Et donc, j'ai regardé Les Chevaliers du Texas, et puis j'ai regardé le titre original du film qui s'appelle South of Saint Louis. South of Saint Louis, qui aurait pu d'ailleurs rester le titre en français, ça n'aurait pas été gênant, ou au sud de Saint Louis, ça aurait été parfaitement OK. Et on appelle ce film Les Chevaliers du Texas. Et en fait, moi, j'ai l'impression que Les Chevaliers du Texas, on l'a baptisé comme ça, parce que, en fait, ça parle des Texas Rangers, et j'ai l'impression que c'est une très mauvaise traduction de Texas Rangers qu'on a traduit en Chevalier du Texas. Donc, la traduction française du titre est aussi approximative que la qualité du western.
T'avais pas un truc par rapport à ça, Toups ?
À propos de la traduction ?
Oui.
Oui, non. Enfin, South of St. Louis, ça veut dire au sud de Saint-Louis. Donc, au sud de Saint-Louis, il y a le Mississippi. Donc, le Texas, c'est pas au même endroit. Donc, on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'était à la période où les Chevaliers du Ciel avec Tanguay et la Verdure passaient à la télé en France ? Est-ce que... Non, mais on peut se demander pourquoi. Ça, c'est... Bon, les Chevaliers...
Non, c'était un film de 49. Les Chevaliers du Ciel n'étaient pas encore nés.
Ah. Oui, alors moi je pense que ton idée, Luc, est la bonne sur la mauvaise traduction des Texas Rangers à l'époque. Moi, c'est un film que j'ai trouvé qui avait des certaines originalités, même si au début il m'a mis très mal à l'aise parce que je me suis dit, tiens, là on a un parti pris pour les sudistes. Et,
c'est flagrant, hein.
Et tout d'un coup, je me suis demandé quelle était l'importance de ce genre de western dans la survivance aujourd'hui de la force de la NRA. Tu sais, parce que il y a vraiment cette idée-là que on doit faire justice soi-même, du moins au début, et que les nordistes qui viennent nous imposer des choses sont vraiment des salengeances qui viennent foutre un sacré bordel, qui sont pires que Attila le Hun, tu vois. Enfin. Comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a un point de bascule quand même. Il faut bien dire que on repasse vers autre chose. Si on doit laisser survivre quelque chose dans ce film en dehors des deux femmes dont tu as parlé, Luc, et qui sont plutôt très intéressantes, je trouve, dans leur traitement. C'est le truc un peu rigolo des grelots.
Attends, moi, j'ai pas réussi à prendre ça au sérieux, quoi. Les gars, à chaque fois qu'ils marchent, ça fait parling, parling, parling.
Ils
n'ont
pas
peur du film, quoi.
Ils n'ont pas peur des autres, c'est ce que ça veut dire.
Oui. Mais du coup, je sais pas, mais ça, c'est pas, enfin, presque ridicule. Enfin, franchement, moi, j'ai vraiment eu du mal à prendre ça au sérieux. Et comme tu dis par rapport au Sud, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est un Sud hyper propre. Il n'y a pas un noir, pas un esclave. Ils ont du coton.
Je m'inscris en faux.
Ah, t'en as vu un ?
J'en ai vu quatre.
Waouh !
Et moi, je défendrai ce film en disant, ce film est gentil. Ce film est gentil, c'est les sudistes, les gentils. Et les nordistes qui profitent des richesses produites par ceux du Sud, les ceux du Sud qui travaillent, eux. Et puis, il y a les méchants aussi. Mais le film est gentil. On voit même quatre Africains-Américains, comme on dit maintenant, dans les figurants. D'accord, dans les figurants. Il y a même un bon petit Mexicain bedonnant qui ne sait ni jouer du couteau, ni jouer du pistolet, mais qui saura conduire un chariot tiré à quatre chevaux, c'est tout dire.
C'est vrai qu'il est très gentil, Benet.
Il y a deux personnages féminins, rouges, parce qu'elle vient de Bâton Rouge, et Deb, parce que Déborah, dont une qui joue bien et une qui est connue. Voilà. Un film gentil, sur fond de trafic d'armes, pour approvisionner l'armée du Sud. Un Sud gentiment esclavagiste, puisque c'est un film gentil. Je me permets de le rappeler, parce que c'est même pas abordé, en fait. Dans le... Donc non, je le classe dans la catégorie des films à autorisation préalable. Alors, il faut d'abord commencer par vider tous ses placards et tous ses tiroirs et ne rien lâcher jusqu'à avoir retrouvé son âme d'enfant d'avant 10 ans. Condition sine qua non pour ne pas avoir, de manichéisme dans le film. Donc le méchant qui meurt trop vite, mais il y en a tout de suite un autre. Il y a toujours un autre méchant.
Tu nous as fait un exposé.
Non, mais c'est super. Moi, j'adore. Et moi, j'ai bien aimé ce film parce que j'ai réussi à retrouver mon âme d'enfant. Évidemment, pas de chance, c'était 2 minutes avant la fin du film.
Et t'as retrouvé dans ton armoire le tissu d'ameublement qui est utilisé pour habiller Rouge. Alors, franchement, moi, j'avais envie de rigoler. J'avais l'impression de voir un défilé de mode, mais avec des tissus pour canapé.
Non, moi, j'étais déçu par le traitement des personnages féminins parce que Rouge, au début, tu te dis, c'est la maîtresse femme. Et à la fin, c'est une faible femme.
Je sais pas. Je sais pas.
C'est pas moi, tout ça. Le début, t'as l'impression que ça s'articule autour d'elle, que c'est elle qui va tenir l'intrigue du film. Et puis, après, c'est une femme, quoi.
D'une certaine manière, elle la tient quand même, l'intrigue. Non, enfin, je sais pas.
Elle lance le film. C'est elle qui lance le film.
Mais alors, c'est un film qui est fait surtout pour mettre en valeur Joël Macri, en fait. Lui, c'est la star du film. Et Joël Macri, c'est quand même un des grands acteurs du western de série B, je dirais pas de série A, qui a tourné dans X films, des dizaines de westerns. Pour en revenir à une discussion qu'on a eue plus tôt, c'est un honnête artisan, lui, du western, je trouve. Je trouve qu'il... Mmh. Alors, il joue jamais de façon fantastique, mais il joue toujours plutôt juste.
Oui, enfin moi je reviens, alors les qualités du film, si c'est vrai qu'il y a des qualités sur le traitement des couleurs, contrairement à ce que tu dis Linda, moi je trouve que c'est un film de 49, il utilise le Technicolor et je pense que les couleurs qui nous sont données à voir, alors sauf si elles ont été trafiquées par la numérisation, ne sont pas artificielles, elles me semblent plutôt de... Enfin c'est assez... dense et riche comme matière visuelle. C'est la qualité du film. Mais moi, je verrais que ça, le reste. Alors, pour revenir sur un des points sur le sud, les noirs, etc., je vous renvoie à la lecture du roman de Larry McMurtry, Lonesome Dove, qui raconte un contexte géographique identique. Et dans Lonesome Dove, on ne trouve aucun noir. Voilà. Et je pense que dans le contexte historique, on est entre l'indépendance du Mexique et que la présence des Noirs ne s'exprimait pas de cette manière-là. En plus, c'est dans la partie du Texas, c'est pas dans la partie du Mississippi.
Elle s'exprimait pas de cette manière-là, tout simplement parce que jusqu'à Ralph Ellison, Invisible Man, personne n'avait remarqué qu'en fait les Noirs étaient invisibles aux États-Unis. Invisible Man, ça date des années 60, je crois, ou 70.
Eh bien, nous allons passer du coup à la chevauchée de l'honneur de Leslie Fenton avec deux William Bendix et William Holden. Là, pareil, on a à peu près la même trame, on est sur la fondation des Chevaliers du Texas, ou les Texas Rangers, je ne sais plus trop comment on dit maintenant.
On doit dire Texas Rangers.
Et puis, il y a une histoire aussi de rédemption. À mon sens, un bon film.
Après, je ne commence plus. Hein. C'est un western. C'est un western, on est dans le genre du western, moi que j'ai eu plaisir à voir, c'est un film que moi je dirais de série B, mais on y retrouve tous les codes, pardon, mais là il me semble qu'on est avec un réalisateur qui est beaucoup plus investi, beaucoup plus impliqué et qui conduit son projet cinématographique en donnant une patte humaine aux acteurs, même si le rôle féminin peut paraître un peu ridicule quand le personnage féminin entre, je veux dire qu'il va prendre de la matière jusqu'à la scène finale, qui est finalement un retournement qui n'est pas loin de là inintéressant.
Linda ?
Charles Bronson joue super bien.
Non, Charles Bronson ne joue pas là-dedans.
C'est bien dommage.
Non,
mais
on entre dans une dystopie.
Oui. Mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je préfère te laisser parler parce que je me trouve assez négative par rapport, de façon assez générale par rapport au, au western. Donc je préfère te laisser parler.
Oui, alors pour en revenir à ça, il faut bien dire que c'est une collection western de légende chez Sidonis qui doit approcher de son numéro 100 et que forcément on arrive au bout des meilleurs westerns ou des westerns moins bons. Moi, ce qui me semblait très intéressant dans ce film, c'est vraiment le duo des William Bendix et William Holden. Bendix, quand il joue avec Mitchum dans Ça commence à Veracruz, il est truculent et là je le trouve par moments, je le trouve aussi vraiment vraiment bon acteur, vraiment. Il est très très intéressant à la fois dans sa naïveté, sa générosité, puisque c'est quand même un film qui met en scène, donc on l'a dit, trois hommes qui sont trois bandits qui vont prendre surtout des trajectoires différentes. Alors on peut y voir une histoire de rédemption sûrement pour deux d'entre eux, et même le troisième à la fin, tu parlais... voilà, on parle de retournement.
Il y
a un double retournement qui est plutôt pas mal. Et surtout, moi, j'ai vraiment un fait pour Bendix. Voilà, c'est un beau personnage. Il fait oublier ce personnage féminin dont tu parlais.
Oui. Non, mais effectivement, moi, je pense que c'est... Quand je dis que c'est un western qui est de... T'as raison de dire que c'est un western de bonne facture. Moi, c'est un western. En fait, c'est un western. Voilà, avec tous les codes, mais dont j'ai le sentiment que c'est ce que je disais tout à l'heure, le réalisateur est plus présent que dans Les Chevaliers du Texas, où j'ai l'impression qu'on a mis quelqu'un, on lui a dit écoute, tu vas faire Les Chevaliers du Texas, et puis il a laissé le truc se faire, quoi, en respectant tous les codes, mais c'est pas habité. Là, dans La Chevauchée de l'Honneur, il me semble que les personnages sont habités.
Oui, je pense qu'ils sont aussi habités parce que, en fait, tu as des acteurs aussi. Ça fait un peu la différence. Voilà, vous avez donc deux films des éditions Sidonis sur lesquels vous pouvez vous projeter. Les Chevaliers du Texas de Ryan Wright, La Chevauchée de l'Honneur de Leslie Fenton et Comment ne pas se quitter avec un peu de musique western.
Oh.
Vous écoutiez un extrait du Bon, la Brute et le Truand revisité par le Spaghetti Western Orchestra. Un thème idéal avant d'embarquer avec Linda. On quitte les États-Unis et leurs étendues sauvages pour partir à l'assaut de la France avec un personnage trouble. En compagnie, me souffle mon oreillette d'un certain Thierry Jonquet.
Eh oui, alors effectivement, la semaine dernière, je suis tombée sur un roman de Thierry Jonquet.
Tu as fait mal
dire... Non, mais enfin, si je dis Thierry Jonquet, vous allez me dire, mais oui, bien sûr.
Bien sûr, Thierry voilà. Jonquet.
Merci, Luc. Eh bien, moi, je n'avais encore jamais lu ce grand monsieur du polar français, qui nous a quittés il y a 10 ans, d'ailleurs. C'est le côté émental de ma culture. Vous savez, là, le fromage à trous.
Oui.
Alors, j'ai lu « Du passé, faisons table rase », d'abord paru sous le pseudonyme Ramon Mercader en 1982. Et moi, j'ai lu l'édition de 1998 chez Actes Sud, collection Babel Noir, sous son nom, Thierry Jonquet. On disait tout à l'heure qu'il avait été réédité chez Gallimard, mais que là,
Réédité en folio policier, mais pour l'instant, il est en attente de réimpression.
Voilà, pas de bol. Et moi, quand j'avais cherché, il était dispo, mais j'avais une info erronée. Donc, on a un prologue qui se passe en 1972, grand nettoyage d'automne. Éradication de personnages par une organisation ultra-professionnelle, genre mafia, barbouze. On ne saisit pas le lien entre les personnages, on est piqué et pressé d'avaler la suite. La suite, donc, on a des épisodes de la jeunesse d'un René Castel, depuis 1935 et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, intercalés entre les chapitres qui sont, eux, contemporains, genre 1980, quand a été écrit le polar. Alors... qui est donc ce mystérieux Monsieur Castel? Évidemment, c'est le nom du personnage dans la vraie vie, c'est pas son vrai nom. Alors, je vous donne un ou deux indices. Attention, vous êtes prêts? Top! Je suis premier secrétaire du PCF de 1972 à 1984. Je ne suis pas l'auteur de la célèbre saillie. Taisez-vous, El Kabash! Attention, il y a un piège. Je suis...
Martin.
Je suis... Bah alors, les gars?
Georges. Georges
Courrèges. C'est ça. En fait, le piège, c'était que c'était un sketch de Pierre Douglas qui imitait donc Georges. Bip. Et on a cru que c'était lui qui avait dit cette phrase. Bref, on assiste à la fabrication d'un dirigeant sur mesure, assuré de son élection à la tête du parti par l'appareil dans l'appareil. L'œil de Moscou jusque chez les camarades français. Moi, je croyais que c'était de la rumeur façon loupe caricaturale. C'est mon côté bisounours, sans doute. Bah, Thierry Jonquet fait apparaître les rouages d'une machinerie machiavélique par le fait divers, l'enquête des services secrets. Et c'est effroyablement bien fait. Dans la tambouille politicienne, à la rubrique stratégie d'enfumage, on a par exemple l'association de mots au hasard... je sais pas, comme on pourrait faire immigration, insécurité, insécurité, immigration. Vous voyez, au bout d'un moment, le cerveau, il fait pout et ça fonctionne bien.
Étranger, chômage.
Ah, ça marche bien aussi, ça. Voilà. On a un autre exemple. La campagne photo pour contrer une image bourgeoise, histoire de brosser le prolo dans le sens de son poil crasseux. Genre, vous rappelez les photos de J6M, Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde.
Le mec aux chaussettes trouées.
Voilà, c'est ça. Plus c'est gros. Et donc, descente glissante dans la patouille de parti, ou quand les militants, qui ont encore des convictions, se sentent devenir gris, comme les autres, ceux qui pensent stratégie. Mais sans stratégie, peut-on parvenir au pouvoir pour réaliser ses idéaux politiques? Postulat insoluble? Ou peut-être est-il mal posé? Quand, dès le départ, il y a dichotomie entre la parole et les actes, prôner l'égalité dans un parti au fonctionnement archipyramidal et autocratique? Alors vous m'opposerez peut-être que ce sont les usines à gaz des gros partis politiques, le pouvoir dans les hautes sphères. Eh ben moi, ça me fait penser à l'ébullition que traverse mon petit village de moins de 3000 habitants, déjà à 4 mois des élections municipales. Stratégie d'alliance avec les opposants d'hier? Ah oui, mais là, on a le même objectif, alors tu vois. Éviction de certains en dénonçant l'éviction d'autres? Ah ben oui, mais lui, il est trop autoritaire. Ou militer pour le participatif en préparant le programme et la liste en groupe fermé. Ah ben oui, mais c'est plus efficace. Hein. Mais quand on sera au pouvoir, on fera du participatif. Hein. Et donc là, toups, tu meurs d'envie de me poser une question,
mais
je
oui,
le sens.
Depuis tout à l'heure, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que par extraordinaire, tu penserais qu'aucun un homme politique n'est sincère.
Eh bien, moi, je pense qu'à l'instar de Pierre Rabhi, il ne faut pas attendre d'espérer pour agir.
Mais ça ne répond pas à la question, tout ça.
Eh bien, je te répondrai en paraphrasant Georges Bip face à Alain Duhamel. C'était peut-être pas ta question, ouais, mais c'est ma réponse.
Ah, qu'est-ce qu'il était bien, ce Georges Bip. Aïe, aïe, aïe. Après la petite musique politico-française à laquelle on ne s'habituera jamais, on revient à des mélodies plus harmonieuses. Herbie Hancock, un gars qui a de la bouteille, à ce qui paraît.
Un gars qui a de la bouteille, oui.
Alors, Toops, comment ça jazz?
Bon, ok, ok. Sauf que là, c'est pas moi. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Le DVD était sur le manteau de la cheminée. Le DVD était sur le manteau de la cheminée de François Pierner. Avec une personnalité, un son en film. Et alors moi, je dis, quel film? Lui, il fait, il s'agissait de ce film dont je vous ai déjà parlé. Il s'agissait de ce film dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Jeff Beck. Et la dernière fois, c'était en parlant de Jeff Beck, comme tu me guitariste de Yardbirds. Comme tu me guitariste de rock, un captain, dire que j'étais guitariste de rock. Mais vous savez, c'est parfois les mots prennent la parole. Vous savez, avec parfois les mots prennent la parole. Et c'est pour ça qu'il a choisi de faire de la musique instrumentale. C'est pour ça qu'il a choisi de faire de la musique instrumentale. Herbert, nous parlons Jeff de Hancock, Herbie, Jeffrey Hancock, dit un musicien pianiste, un musicien pianiste, compositeur, clavieriste, compositeur, 12 avril 1940, 12 avril 1940, le signe du mur, certainement, premier tube en 1962, et pour vous en demander en 1962, et pour vous en demander le titre, vous dites une question de son melon, vous vous y connaissez, vous, en melon,
chapeau,
j'ai un melon ananas qu'il ne faut surtout pas planter à côté des courges parce qu'il se renaturalise.
Moi j'ai un charentais, je te propose un charentais, un bon vieux charentais.
Ah, un bon vieux charentais, c'est quand même
assez. Alors, et puis tout à l'heure on a croisé un. Enfin, on ne l'a pas croisé directement, on a vu sa plaque.
Nicolas Melon ?
Oui, avocat à Angers.
Avocat ou notaire ?
Notaire.
Notaire, notaire.
Notaire.
Ah, oui. Soyons, soyons.
Un melon juste. Peut être que notaire. C'est
Nicolas Melon, notaire à Angers. Oui. Mais il n'y a pas un imitateur qui s'appelle Nicolas Canteloup ?
Ah oui,
oui, mais
il y a
alors,
aussi.
Le rapport
oui.
avec les melons, là, c'est
quoi ? Le rapport avec les melons, c'est qu'il y a un melon, le melon charentais.
Le Canteloup ?
Son nom, c'est le Canteloup. Le melon Canteloup, qui représente 80% de la production nationale, quand même. Alors, vous m'avez donné facilement 4 ou 5 différents de melons, là, hein, 4 ou 5 noms de variétés de melons. Il en existe 960 dans le catalogue européen des espèces et variétés.
Vous êtes bien sur Calibre 58 et nous parlons littérature policière et western, je vous rassure.
Il parle de musique en fait.
Là, on est en train de parler de musique, on est en train de parler de jazz, oui. Bah oui, alors le melon canari, tout ça. Bon, alors le melon charentais, donc le melon Canteloup. Et moi, je disais, il est peut-être né sous le signe du melon Herbie Hancock parce qu'il y a le melon d'eau. Watermelon, qu'on appelle aussi la pastèque. Son premier tube, en 1962, Watermelon Man, c'est devenu tout de suite un standard de jazz. Hancock avait 22 ans. Est-ce qu'à 22 ans, il avait conscience de participer à l'écriture de l'histoire de la musique du XXe siècle ? Peut-être. Il joue le premier concerto, le premier mouvement du concerto numéro 5 en ré majeur de Mozart à 11 ans avec l'Orchestre symphonique de Chicago. En 63, il est engagé par Miles Davis, qui l'intriguera beaucoup parce qu'il est toujours à la recherche de nouvelles sonorités et de nouveaux concepts harmoniques. En 64, il fait un nouveau tube, Canteloup Island. Nous parlons bien de Herbie Hancock, le compositeur de la BO de Blow Up d'Antonioni. Eh oui, alors en 66, période jazz, mais aussi de ce film de 74, période funk jazz, dont j'ai réussi à ne pas dire de mal la dernière fois, Death Wish, un justicier dans la ville. Un film qui commençait pourtant très fort, très bien, très simplement, avec le résultat d'une étroite collaboration entre l'image et le son. En 71, cet homme finit ses études de génie électrique et musique. Et le premier album de son nouveau groupe, les Headhunters, qui sort en 73, ben, il influence dans les années qui suivent aussi bien le jazz que le funk, que la soul et le hip-hop. En 86, il signe la BO de Autour de minuit de Bertrand Tavernier. Et donc, il rejoue avec Dexter Gordon, le saxophoniste ténor, 24 ans après son premier album, Taking Off, littéralement décollage. Ce musicien fait des allers-retours incessants entre la tradition et la modernité. Et il retourne dans la tradition en disant VSOP, il fait un album, un groupe qui s'appelle VSOP. Vous savez ce que ça veut dire, VSOP ?
Oh, facile. C'est un quintet d'alcool blanc. Vodka, rhum, gin, saké, tequila.
Ça pourrait.
Very Old Special. Et je ne sais pas ce que c'est que le P.
Alors, Very...
Very Superior Old Pale.
Very Superior Old Pale. Et lui, son quintet s'appelle VSOP pour Very Special Old Phonography.
Waouh.
Ah ouais. Et là, il fait... Là, il a conscience de faire de la musique classique du XXe siècle quand il fait ça. Et il a été repris, il a influencé tellement de gens, il a été repris en 92 par une bande d'anglais, un trio qui s'appelle US pour Us 3. Et ils reprennent ce titre que tout le monde connaît, Cantaloupe Island.
Et on écoute ça tout de suite.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording. For Blue Note Records. Jam, boogie, woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle-dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip.
Chapeau maestro et merci encore.
Eh bien, avant d'entamer notre second débat de l'émission, je voulais juste dire, en revenant sur les pastèques, pour faire un petit propos vis-à-vis de Linda, Charles Bronson y joue très bien dans Mr. Majestic, l'histoire d'un agriculteur de pastèques qui va se venger d'une bande de loustiques. Voilà, donc je te recommande vivement de voir ça d'après un roman d'Elmore Leonard. C'est jouissif. Donc c'est l'heure de notre second débat bande dessinée, ce coup-ci, avec deux ouvrages, La Vengeance de Croc en Jambe de Mathias Lehmann et Mog chez Fluide Glacial, un mélange de musique, fête foraine, guerre des gangs et amour. Et Une erreur de parcours de Denis Robert et Franck Biancarelli chez Dargo, où quand un juge revient sur son passé, sur fond de l'affaire Simone Weber. Eh bien, mes amis, qu'en avez-vous pensé de ces bandes dessinées, Linda?
On commence par quoi?
Bah, La Vengeance de Croc en Jambe.
La Vengeance de Croc en Jambe. Alors, ça se lit très rapidement. Je trouvais que le dessin était assez rigolo. J'ai passé un moment agréable. Après, je suis pas sûre que ça me laissera un souvenir impérissable, notamment l'intrigue. Mais il y a des moments assez réjouissants. Voilà.
Alors, La Vengeance de Croc en Jambe, c'est un film qui se passe, une BD qui se déroule dans la vallée de la Fench. La vallée de la Fench, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la vallée qu'on descend quand on veut aller du Luxembourg à Metz. C'est une vallée hyper industrialisée, qui a été hyper industrialisée et qui est devenue une catastrophe économique. Et en fait, dans cette vallée de la Fench, il y a des musiciens qui sont déglingués, il y a des dealers, il y a des forains. Il y a des immigrés qui tous sont armés. Il y a deux adolescents qui rêvent de fuir cette vallée et qui se retrouvent SDF à Paris, mais tellement heureux. Je ne vous cache pas que ce regard, même si les auteurs sont de Metz, ce regard sur la Lorraine et sur la vallée de la Fench m'a pour le moins affligé.
Affligé. Moi, ça m'a instruit. Moi, ça ne m'a pas affligé, ça m'a beaucoup instruit. Après, il y a sans doute d'autres regards à avoir sur cette vallée, en tout cas. Mais pour qui ne connaît pas, justement, c'est une façon comme une autre de se rappeler les quelques fois où moi personnellement, où j'ai pu avoir l'occasion d'aller dans les Ardennes, dans le Nord, dans toutes ces régions qui étaient très industrialisées et puis qui ont été désindustrialisées, voire... des gens qui n'ont plus rien et à qui reste la bouteille en général, et puis derrière il y a les deals et tout ça. Ça a été une piqûre de rappel, hein. C'est des choses qui existent quand même en France, hein.
Oui, mais moi je préfère la chanson de Lavilliers, Fench Valley. Je préfère le regard d'Arnaud Desplechin qui brosse un portrait de Roubaix dans Roubaix une lumière, qui sont des regards chargés d'humanité. Là, moi, cette désolation, enfin, c'est pas ça pour moi. Un pays, c'est pas ça.
Oui, mais est-ce que ça doit être ça? On est dans une bande dessinée qui, pour moi, est un western contemporain dans un monde de frics. Donc, c'est plutôt ça qui est rigolo. Je sais pas trop. Toups, désolé de t'avoir coupé la parole.
Non,
tu voulais dire quelque chose.
Non, mais je dis, pour toi, c'est pas ça, mais ça ne peut pas non plus être que ça. Et ce n'est pas, pour moi, c'est pas que ça, que ce qu'on voit dans cette BD, effectivement. C'est les Freak Brothers, ça fait vraiment beaucoup penser aux Freak Brothers, cette bande dessinée.
Oui, puis il y a le film de Todd Browning. Non, moi je trouve qu'il pousse le trait un peu loin. On est dans la caricature, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Et puis, comme disait Linda, ça se lit très vite. Le dessin, moi je le trouve très intéressant parce que au premier abord il m'a heurté, puis on s'y fait un peu comme quand on avait cette série sur Arte, Petit Quinquin, qui nous déstabilisait parce que il y avait une langue qu'on ne maîtrisait pas, et puis là on a un dessin qu'on maîtrise pas et que tout d'un coup arrive mais le temps qui nous est imparti, toujours pas socialiste, c'est déjà ça, comme disait Pierre Desproges. on va aller sur cette erreur de parcours. Alors, cette erreur de parcours, est-ce que le titre est prometteur ou pas?
Ah, vous voulez que je commence encore?
Oui.
Oui, alors donc c'est de Denis Robert et Franck Biancarelli. Le sous-titre, c'est « Je suis un juge. Par la force des choses, je suis aussi un assassin. » Et on a tout ce... Bah, ça tourne autour de tout cet équilibre ténu entre la justice et à quel moment on peut basculer ou non d'un côté ou l'autre. Alors pour le coup, là, ça se lit pas en 2 minutes. Hein. Enfin, moi, perso, j'ai mis plus de temps que ça. Et bah, j'ai trouvé ça subtil et bien ficelé. J'ai vraiment apprécié... Oui, c'est ça, toutes les couleurs, en fait... des personnages. Qu'est-ce qu'il y a?
Je commence à en avoir marre.
Ah,
j'ai rien dit.
J'ai entendu la voix de Toups.
Non, j'ai rien dit. C'est pas moi.
T'as rien dit? Mais bah, vas-y, dis maintenant.
C'est une voix fantôme.
C'était une voix fantôme. Bon, bah, écoute, moi j'ai trouvé que, effectivement. Alors, le titre et le sous-titre, moi j'avais pas très bien lu et je suis juge par la force des choses. Et je suis également un assassin. Et moi, j'avais compris, je suis juge et par la force des choses, je suis aussi un assassin. Ce qui est tout de suite...
Mais il joue sur cette ambiguïté, le
Mais
titre.
Oui, ah oui, c'est oui. Ça,
bon,
oui.
D'accord. Voilà. Okay.
Bah oui.
Ok, autant pour moi. Alors, moi, enfin... j'avais envie de dire, avant les autres, c'est l'histoire d'un magistrat, et ben c'est magistral. Non, vraiment, c'est bien écrit. Non, blague à part, c'est vraiment bien écrit. C'est super bien dessiné. Je trouve qu'effectivement, il réinvente le genre. C'est peut-être un peu long, quand même. Il y a peut-être, c'est peut-être un peu long à partir du moment où on voit la mécanique et on voit où ils vont arriver forcément et où.
On dit pas la fin là. Hein.
Non,
parce
je
que là, c'est important.
On dit pas la fin, mais ça met en avant surtout que on a beau être juge, on est également humain et donc on a les travers des humains. Luc, 3 secondes sur cette bande dessinée.
Je vais faire 3 secondes parce que ça n'en mérite pas plus. C'était une BD de Denis Robert. Denis Robert, c'est le journaliste qui a contribué à révéler l'affaire Clearstream. Denis Robert, c'est un auteur qui a écrit sur l'affaire Simone Weber, sur plusieurs affaires. C'est un auteur que je considère comme logoréique. Et c'est encore une histoire qui se passe à Metz. Je suis désolé, moi je suis très touché par la Lorraine. Je suis né à Metz, donc c'est une ville que je connais bien, c'est une région que je connais bien. Et je trouve qu'à nouveau là, après la vengeance de Croque en Jambe, où on présente des dealers et des voyous, on nous présente des juges pourris. Je trouve que
c'est un bon juge.
Oui, je pense qu'il y a un complot anti-Messin.
Ouais.
Ici.
Voilà, en toute objectivité, Luc.
Je pense que les BD qui nous ont été proposés à la lecture me ciblaient complètement.
Ah là, c'est donc... ça, il y a un complot contre
c'est...
toi.
Ah, oui, c'est le lobby anti-Messin.
Voilà. Bref, donc moi, j'ai pas. Je suis réservé sur cette BD aussi. Hein. Je suis réservé, mais peut-être que c'est parce que j'ai un problème avec l'auteur Denis Robert.
Oh, penses-tu ? Ah non, moi je crois pas.
Eh bien, ce mot va être la conclusion de ce débat. Vous écoutez toujours Radio G sur le 101.5 FM. Et il y a 2 ans, mourait William Melvin Kelly dans la plus grande des anonymats. Du moins en France. L'auteur afro-américain avait juste eu le droit à 2 publications de recueils de nouvelles au Castor Astral avec des thématiques que l'on retrouve dans Un autre tambour, enfin édité chez Delcourt. L'homme a été professeur d'université, mais avant, après les assassinats de Martin Luther King et de John Fitzgerald Kennedy, il est parti avec sa femme vivre en Jamaïque, voulant fuir le racisme ambiant et élever leurs enfants dans une autre ambiance, une autre société. Un intermède peut-être vain de 9 années qui intervient juste après la publication d'Un autre tambour. Celui qui avait participé au Black Art Movement revisite un pan de l'histoire américaine et débute par un passage ahurissant avec l'accostage d'un négrier et le débarquement d'un géant surnommé l'Africain et symbole de la force qui va participer à l'enrichissement de certains dans le pays. On est dans l'horreur picaresque comme les aiment les éditions Delcourt. L'année dernière, elles avaient déjà publié « Au loin » d'Hernan Diaz, le roman récompensé du prix América lors du festival éponyme de Vincennes, mettait en scène un autre géant scandinave, cette fois pareillement sauvage, qui traversait les États-Unis pour retourner dans son pays. Immersion fantastique dans un univers gore aventurier. Revenons à un autre tambour. Des générations passent, une horloge survit, et on se retrouve en juin 1957 dans une bourgade du Sud en compagnie de Tucker Caliban. C'est un jeune fermier noir qui vient d'acheter du sel pour en recouvrir son champ. Il est patient, il est méticuleux, il est taiseux, mais il a enfin compris. C'est le premier de la ville à partir, et il ne va pas tarder à faire des émules. Petit à petit, on observe une migration de tous les Afro-Américains du Sud vers le Nord. Enfin, on ne l'observe pas tant que ça à travers ce roman choral. Il y a le très jeune Harry Leland et sa naïveté confondante. Il y a David Wilson et ses rêves de journalisme engagé. Il y a Daphne Wilson, admiratrice de Besra Caliban. Deux femmes, la première blanche, la seconde noire, qui errent dans un monde d'hommes en cherchant à s'émanciper. Et puis, il y a un pasteur noir qui traverse le pays à bord d'une limousine avec chauffeur. L'histoire se découvre peu à peu. Il n'y a pas vraiment de narration chronologique. On suit l'évolution intellectuelle des personnages du roman. Évidemment, le roman est politique. C'est une uchronie intelligente avec un raisonnement mathématique par l'absurde. Que feront tous ces blancs ruraux quand ils se retrouveront tous seuls? Un ersatz est donné par l'auteur puisqu'il semblerait y avoir un retour aux fondamentaux de la colonisation avec la pendaison du dernier noir. À la fin de sa vie, les habitants de Harlem sont nommés Kelley, Duke. Certains l'ont comparé de façon, me semble-t-il, erronée à Faulkner. Il y a bien plus de Caldwell chez cet homme. Voilà un roman qui mérite de ne pas passer inaperçu. C'est chez De Noël, un autre tambour de William Melvin Kelley.
Renifleur & Co. Mise en scène de Linda Gonin. Avec Laure Gélin, Thierry Pugh, Toups Bébé et Linda Gonin. Voix du générique, Elouane.
Nous sommes dans le cabinet d'avocat Reniflard Co. Maître Reniflard fait appel à son assistant, Monsieur Ravelli, afin de lui présenter un client, Monsieur Jones.
Ravelli! Ravelli!
On appelle Ravelli.
Ravelli est là!
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.
Dites donc, Ravelli, il faudrait voir à changer de musique.
Bah pourquoi? Elle ne vous plaît pas ma musique?
Ah, c'est pas ça, mais elle me donne envie de manger des pâtes.
Ah, bon bah, ok.
Dites donc, je n'aime pas beaucoup que vous dormiez sur le dos de la société.
Et moi non plus, patron. Vous ne pourriez pas m'accéder au lit.
Ravelli, je vais vous présenter...
Mr. Jones.
Ok, où est-il?
Monsieur Ravelli, je suis très heureux de faire votre connaissance.
Mais de quoi il parle?
Il dit qu'il est content de vous rencontrer. Il doit être cinglé.
Monsieur Ravelli, je viens d'expliquer à Monsieur Reniflard qu'à mon grand regret, ma femme ne se comporte pas comme une dame. Elle sort avec d'autres hommes.
Elle sort avec d'autres hommes? Va bene. Et vous croyez que ça lui plairait?
Je vois que vous avez des tas de choses à vous dire. De plus, j'ai un conseil d'administration au billard en face. Et si vous voulez bien m'excuser, je file.
Au billard? Monsieur Reniflard, j'ai l'impression que vous ne faites pas les choses de manière très professionnelle. Vous quittez une réunion pour aller jouer au billard?
Mais je n'ai pas le choix. Comment voulez-vous que je joue au billard ici? Il n'y a pas de table. Mes respects, messieurs.
Eh bien, Monsieur Ravelli, laissez-moi vous décrire ma femme, afin que vous puissiez la prendre en filature. Elle est de taille moyenne et... Mais attendez, j'ai une photographie d'elle. Ah, voilà, Monsieur Ravelli.
Petit-li-di-li-di-li-dam, pou-pou-pi-toup. Ma que bella! Ok, j'en prends une douzaine.
Je ne les vends pas.
Vous me la donnez pour rien?
Bien entendu.
Ok, J'en prends deux douzaines.
Une seule photo devrait vous suffire pour le moment. Bon, monsieur Ravelli, ma femme est sensible au charme d'un homme en particulier. Je compte sur vous pour découvrir de qui il s'agit. Vous en sentez capable?
Ma que si, comptez sur moi. Je pince, mon signore, avec votre épouse. Et plus vite que ça.
Vraiment? Comment allez-vous procéder?
Primo, je me déguise.
Oui.
Secondo, j'amène un lévrier. Tertio, dévaissez-vous.
Oui.
Et là, je demande à votre femme s'il a un amant.
15 jours plus tard.
Cabinet des avocats, Reniflard & Co. Non, monsieur Reniflard n'est pas encore là, mais je l'attends d'une minute à l'autre. Oh, bonjour monsieur Jones, je n'avais pas reconnu votre voix. Oui, monsieur Ravelli file toujours votre femme. Mais il vient seulement de commencer. 2 semaines à peine. Monsieur Ravelli doit venir au bureau ce matin. Il paraît qu'il a des nouvelles. D'accord, je préviendrai monsieur Reniflard que vous avez l'intention de passer. Au revoir.
Ça c'est quoi ça? C'est pour qui le bon nanos? C'est pour les gentils chouchous.
Bonjour monsieur Reniflard.
Vite, téléphonez chez Warburton, McAllister, Throckmorton et Bruce et demandez maître Schwartz. Dites-lui que je désire emprunter une paire de chaussettes.
Emprunter une paire de chaussettes?
Pourquoi pas? Un jour, je me suis dépouillé de ma chemise pour lui. Et il est vrai qu'elle lui appartenait, mais les manchettes étaient à moi. De nouveaux clients, mademoiselle Fossette?
Non, monsieur.
Aucun client. Chaque fois que je vous confie le bureau, le travail s'en ressent. Hier, j'étais là et que s'est-il passé? Nous avons eu une grosse journée.
Hier, nous avons eu une grosse journée.
Et comment? N'ai-je pas vendu le tapis?
Mais...
Et puis, mademoiselle Fossette, avant que j'oublie, appelez Ravelli et dites-lui de rester au lit.
Il vient de téléphoner pour prévenir qu'il arrivait.
Dans ce cas, je préfère retourner au billard.
Mais monsieur Jones va arriver. Il veut vous parler de son divorce.
C'est son seul sujet de conversation. Je commence à en avoir marre.
Mais... Monsieur Reniflard, c'est votre métier.
Eh bien, je préférerais qu'il ne s'en mêle pas.
Il y a quelqu'un dans l'entrée. Je pense que c'est lui.
À suivre.
Quelques brèves. C'est pas polar, mais c'est pas une raison. Jean-Paul Dubois a obtenu le prix Goncourt pour « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » aux éditions de l'Olivier. Précieuses éditions de l'Olivier. Une histoire de gardiennage et de conflit dans une résidence. D'après mon amoureuse, qui est libraire, c'est amplement mérité. Enfin, ce mercredi à 19h à la bibliothèque d'Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, c'est mercredi polar autour des éditions Gamemaster. On vous laisse avec Caresse Métallique. La semaine prochaine, c'est Imaginaire. On se retrouve dans 15 jours. Bye bye, au revoir les amis.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Radio G 101.5 FM.